comprenez bien ce que je veux faire au sujet de Pascal. Il ne s'agit pas d'une analyse littéraire. Je ne veux pas examiner les mérites de son style. Je ne peux pas essayer non plus de retrouver l'enchaînement de ces affirmations dont les débris subsistent sous le nom de pensée de Pascal et qui sont, vous le savez, les fragments d'un livre qui n'a pas pu écrire sur l'apologie du christianisme. Non, ce que je veux faire, c'est m'approcher, si je puis, de sa personnalité intérieure. Tout le monde connaît son masque mortuaire qui a été reproduit à des milliers d'exemplaires. C'est ce masque que je voudrais interroger. Les paupières sont fermées, on ne voit pas le regard, et bien c'est ce regard que je voudrais essayer de retrouver. Disons, si vous voulez, que c'est Pascal tel que je le vois. Il n'a pas eu d'enfance, c'est la première idée importante à garder lorsqu'on pense à lui. Pas eu d'enfance, probablement d'abord parce qu'il a à peine connu sa mère. Il avait 2 ans et demi lorsqu'elle a disparu. Peut-être cette mère eut-elle détendu le climat un peu singulier de cette famille que j'ai essayé d'évoquer devant vous. Après tout, nous n'en savons rien car nous n'avons presque pas d'informations sur Mme Pascal. En revanche, le père nous est mieux connu. Étienne Pascal, conseiller du roi, président en la cour des aides de Montferrand, était un personnage considérable et qui se savait considérable. Bien qu'il ne fût pas noble, il n'avait de fréquentation que pour les nobles et les lettrés. Disons, si vous voulez, que c'était un très grand bourgeois. Lorsque cet homme devient veuf, dans l'année 1625, il a donc, dans sa famille, 3 enfants. Il y a une Gilberte de 7 ans et demi, il y a le Blaise de 2 ans et demi, et puis Jacqueline, dont la naissance vient précisément coûter la vie à sa mère. Dans cette France du XVIIe siècle, les filles ne comptaient pas beaucoup, il s'agissait de les marier le plus rapidement et le plus convenablement possible. C'était les garçons ici, l'enfant unique, qui était important. Ce petit Blaise, au front bombé, le regard ardent, son père se persuadait qu'avec un père tel que lui, l'enfant ne serait pas n'importe qui. Et c'est là où est la deuxième raison pour laquelle il n'a pas eu d'enfance comme les autres, c'est que son père ne l'a mis dans aucun établissement, dans aucun collège, qu'il n'a donc ni camarade de classe, ni camarade de jeu, et qu'il est perpétuellement auprès de son père qui se charge de l'instruction. Nous sommes assez bien renseignés là-dessus par Gilbert, qui ne compte pas beaucoup dans notre histoire et qui rachète son insuffisance en se constituant l'historiographe officiel des siens. Elle nous a laissé un mémoire sur Blaise, qui est fort important, et où on voit en particulier que le père avait tenu à donner à son fils une éducation encyclopédique, ce qui nous paraît aujourd'hui inconcevable, mais au XVIIe siècle, il n'y avait pas de spécialisation, et on croyait qu'on pouvait être également savant en philosophie, ou en littérature, ou en géographie, ou en sciences pures. D'autre part, elle ajoute ce détail qui a son prix, juste pendant les repas, mon frère apprenait à Blaise quelque partie de la logique ou de la philosophie. Vous avez entendu, pendant les repas, l'éducation qui le tuait, mais ce gosse n'aimait que ça, il n'aimait pas jouer, il aimait apprendre. Mauriac, qui a écrit un livre pittoresque et pénétrant sur Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline, commente un détail que Gilbert nous a rapporté. Gilbert dit en effet que l'enfant n'ayant qu'encore que 12 ans, son père commettait ce que j'estime être l'imprudence de le laisser entrer dans son cabinet de travail lorsque lui-même y recevait des gens comme Fermat ou comme Robert Val. Et dans l'admiration où il était de son petit garçon, il le laissait discuter science avec les messieurs. Alors c'est là où Mauriac écrit avec un sourire, cela ferait penser presque à Jésus parmi les docteurs, quoique avec un peu moins de simplicité. C'est encore Gilbert qui nous affirme que le frère aurait réinventé tout seul, comme ça, tout seul, les 32 premiers théorèmes d'Euclide. La vraisemblance est que l'enfant avait saisi, dans cette famine d'apprendre qui était la sienne, avait saisi un livre de géométrie alors que son père ne lui avait pas encore enseigné, et à l'aide de barres et de ronds, comme dit sa sœur, c'est-à-dire de droite et de circonférence qu'il dessinait lui-même avec un morceau de craie sur le carrelage de sa chambre, il était arrivé à reconstruire l'enchaînement logique et rationnel de ces 32 premiers théorèmes. Quelle que soit l'identité du fait, enfin la réalité du fait, toujours est-il que le père est fou d'orgueil d'avoir un fils si remarquable et qu'en 1631, Étienne Pascal quitte Montferrand pour venir s'établir à Paris. Et dès l'année 1636, le fils du conseiller Pascal, comme on disait, était célèbre à Paris, au point que le philosophe Gassendi va lui fournir une sorte d'étiquette en latin, admirabilis nepotius. Incomparabilis adolescens, ce qui signifie un adolescent admirable, que dis-je, incomparable. Alors vous devinez tout de suite le résultat d'une pareille éducation. Une intraitable suffisance, une merveilleuse assurance d'avoir toujours raison, un garçon qui se considère comme un grand esprit, et qui entend que sa royauté spirituelle soit reconnue. Disons, si vous voulez, un peu brutalement, que le Pascal de 16 ans était un assez insupportable, m'as-tu vu, doublé d'un vrai savant, Puis, en 1639, donc à sa 16e année, il publie un travail qui s'appelle « Essai pour les coniques » qui attire l'attention et même l'admiration d'un homme comme Descartes. Regardons à côté ce qui se passe dans la famille. Il y a un autre phénix, figurez-vous. L'autre phénix, c'est sa sœur Jacqueline. Elle, sa spécialité n'est pas la mathématique, comme on disait alors, sa spécialité serait la poésie. Elle est, paraît-il, inouïe et imbattable pour faire un temps record, un poème sur un sujet donné. Dans l'année 1636, la petite apprend, comme toute la France, que la reine attend un enfant. Elle fait un poème curieusement intitulé « Du mouvement que la reine a senti de son enfant ». Le père agit. Paye l'impression de cette publication. La publication paraîtra avec une dédicace naturellement à la reine Anne d'Autriche, dans laquelle, avec une sainte humilité, la petite Jacqueline dira « C'est l'ouvrage d'une fille qui entre dans sa 12e année. Ben, » ce n'est pas vrai, elle entre dans sa 13e année, et puis c'est parfaitement désagréable que ce soit elle-même qui nous le dise. Alors vous voyez, représentez-vous bien, cette extraordinaire famille Pascal, où il y a le vieux monsieur qui bourre son fils de logique et de mathématiques jusque pendant les repas, il y a la fille qui est inouïe pour faire du madrigal et des pitalames, et tout ça sans admirant à qui mieux est persuadé en conscience qu'il constitue une corporation providentielle de génie. Cette drôle de famille va recevoir ce que nous appellerions dans notre langage d'aujourd'hui un coup dur dans l'année 1738. Le père Étienne Pascal s'est mêlé d'une protestation de porteur de rente de Leville parce que Richelieu amputait, pour les besoins de sa politique financière, amputait une partie de ses rentes. 500 protestataires, disons que c'était des moutons enragés, enfin des gens bien, étaient descendus dans les rues de Paris. Richelieu, qui n'aimait pas le désordre d'où qu'il vint, avait fait naître à la Bastille les principaux meneurs. Par chance, le conseiller Étienne Pascal n'en avait pas été. Il s'était vite réfugié à Montfort. Et peu de temps après, Richelieu va lui offrir une position pour laquelle il ne trouvait aucun titulaire. Il s'agissait de faire payer les pauvres de Normandie, qui eux s'étaient révoltés d'une manière si grave qu'on avait dû envoyer contre eux de la troupe, le général Gassion, qui par des moyens appropriés avait ramené ses paysans. Alors, il s'agissait de les faire payer. Et bien, le conseiller Étienne Pascal emmène sa famille, et son fils Blaise notamment, à Rouen pour faire payer les pauvres, puisqu'il s'appelle maintenant commissaire député de Sa Majesté en la Haute-Normandie pour l'impôt et la levée des taxes. Lorsque Blaise Pascal arrive à Rouen, le premier spectacle qu'il voit sur la Grande Place est un spectacle d'édification pour inspirer de bons sentiments à la population paysanne. On extrait jour par jour de la prison un manant, on l'installe sur la roue et on lui casse les membres. Pascal, qui est un garçon gentil, qui veut aider son père, va inventer alors pour l'établissement des rôles d'imposition une petite mécanique qu'on appellera la roue Pascal ou encore la Pascaline, qui n'est rien d'autre que l'authentique ancêtre de la machine à calculer. Et pendant son séjour à Rouen, va se produire un incident qui semble de peu d'importance et dont en réalité les conséquences seront démesurées. Un jour de verglas, le conseiller Pascal glisse en sortant de sa maison, se passe la cuisse, on le ramène chez lui. Il fait venir, assez curieusement, non pas un médecin officiel, il y en avait, vous savez, à moi. Il fait venir deux rebouteux distingués de bonne compagnie, dont on disait qu'ils avaient une grande habileté pour remettre une fracture, et surtout qu'ils avaient de la conversation. Ils s'appelaient les frères Deschamps des Landes, Deschamps de la Boutique. Et on disait d'eux qu'ils étaient rouvillistes, du nom du curé de Rouville. Et le rouvillisme, c'est le premier nom que le jansénisme a porté en Normandie. Par conséquent, avec la présence de ces deux hommes dans la maison de Pascal, c'est Port-Royal qui vient à la rencontre de notre Blaise Pascal. Les biographies disent couramment que c'est alors que se passe la première conversion de Blaise Pascal. Ce vocabulaire m'a toujours paru stupéfiant. Enfin, comment conversion? Alors il n'était pas très délicat avant. Et puis première conversion, alors il se serait déconverti puis reconverti. Oui, essayons de serrer la chose de plus près. Qu'est-ce qu'on appelle conversion? Conversion, c'est un mot latin, convertere, volte-face, se retourner. La conversion, c'est le mouvement de quelqu'un qui quitte ce qu'il estime être l'erreur pour passer à ce qu'il estime être la vérité. Ben à ce moment-là, le Pascal de 23-24 ans, comment est-il du point de vue religieux et du point de vue des mœurs? Point de vue religieux, c'est un catholique de tradition, catholique de fidélisation. Cartésien, c'est-à-dire qui distingue deux domaines de la connaissance, il y a le domaine de la connaissance scientifique où la raison a son plein emploi, et puis le domaine de la connaissance religieuse, où, si je peux risquer cette image, la raison n'a qu'à figer les yeux et fermer les yeux devant des vérités révélées. Il n'y a pas de communication entre les deux domaines. Pascal est un catholique qui ne se pose pas de problème. D'autre part, pas sur le plan des mœurs, il est irréprochable, il est préservé du désordre par son orgueil même, il n'entend pas s'abandonner à des plaisirs qui sont l'apanage du vulgaire et qui relèvent de cette part de nous-mêmes qui n'est pas la raison pure. Alors c'est pas une conversion, puisque avant comme après sa rencontre avec les frères Deschamps, avant comme après, il est un bon catholique et il est irréprochable sur le plan des mœurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là je vous propose une interprétation, car il peut même passer quelque chose. Mais ce qui est passé ici, à mon sens, c'est que Blaise Pascal entend ses frères Deschamps, près du lit du père, parler de problèmes théologiques qui lui sont jusqu'alors étrangers. Il s'aperçoit que ces messieurs apportent à la discussion de ces problèmes théologiques une passion, je ne dirais pas égale, mais 100 fois supérieure à celle que lui-même apporte pour la discussion des problèmes scientifiques. Il aurait donc l'impression qu'il y a là un nouveau domaine de l'esprit où il pourrait faire reconnaître sa royauté. Je dirais donc que ce que l'on appelle sa conversion me paraît être l'irruption d'un orgueil dans le nouveau domaine de l'intelligence où il espère à son tour se faire remarquer et dogmatiser. Pas seulement dogmatiser, mais le mot est de l'abbé Brémond dans sa admirable histoire littéraire des sentiments religieux en France, pas seulement dogmatiser, mais vers se conduire tout de suite comme un jeune inquisiteur. En effet, il y avait à ce moment-là dans la région de Rouen un capucin qui s'appelait Frère Saint-Ange dans le civil Jacques Fourton. Capucin qui allait de paroisse en paroisse, de village en village pour faire ses prédications. Je ne sais pas s'il obtenait beaucoup de retours, mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de problème. Mais ce capucin peut remarquer qu'il a dans son auditoire un auditeur perpétuellement assidu et qui prend des notes, c'est Blaise Pascal, qui ayant maintenant sa petite théologie à lui, augustinienne, enfin, et janséniste, estime que la prédication de ce capucin n'est pas d'une théologie saine. Et lui, qui n'est qu'un laïc, qui n'est aucunement mandaté pour faire de la censure religieuse, va aller coup sur coup deux fois dénoncer ce capucin à l'autorité ecclésiastique, deux fois parce qu'il y a d'abord un évêque suppléant, c'est Mgr Camus, lequel ne veut pas l'entendre, alors Pascal va chercher l'évêque titulaire, c'était Mgr de Harlay, qui ne résidait pas, mais qui n'était pas loin de Rouen, et il va obtenir de Mgr de Harlay une interdiction de continuer ses prédications faites à ce misérable capucin. Parallèlement, il continue ses recherches scientifiques, il est même dans une grande effervescence, c'est le moment où il perfectionne le paramètre, où il invente la presse hydraulique, où il fait des expériences sur la pesanteur de l'air, et il a une première polémique, il en viendra d'autres, avec un jésuite infortuné qui s'est appelé le père Noël, et que Pascal pulvérise dans une polémique dédaigneuse. C'est le temps aussi où il publie en matière religieuse des choses admirables, l'essai sur le traité sur le bon usage des maladies, 1649, et comme son père disparaît dans l'année 1651, il sort de lettre circulaire, lettre sur la mort du continu Pascal, où Blaise Pascal explique à tout un chacun comment un vrai chrétien doit se comporter quand il va disparaître un être cher. Toute la rhétorique religieuse se trouve dans ces textes. Et sans ironie, je vous dirais que ce sont des textes édifiants. Et pourtant, rien n'en est plus long sur la vérité intérieure de cet homme qu'une certaine phrase que je tiens à décider ici, et qui vient d'une des religieuses de Port-Royal, la mère Agnès de Sainte-Thècle, qui se trouvait être la tante de Jean Racine, laquelle écrit « Mademoiselle Pascal, et on veut dire Jacqueline, Mademoiselle Pascal supplie le ciel tous les jours pour la conversion, le mot est bien, pour la conversion de son frère. » C'est à croire que la mère Agnès ne sait pas ce qu'elle dit, enfin, la conversion de quelqu'un qui écrit des choses si parfaitement catholiques et si profondément édifiantes. Si, la mère Agnès sait très bien ce qu'elle dit. Jacqueline avait écouté, avec des oreilles ardentes, si je puis dire, ce que lui expliquait son frère, comme mentant, avec les propos qui étaient les siens et avec des formules inoubliables, ce que disaient un peu maladroitement ses frères Deschamps et Laboudou. Elle avait tellement bien écouté ce que lui disait son frère qu'elle était entrée si profond dans son cœur que cette fille, qui était jolie et qui était riche, avait décidé de ne pas accepter, comme on dit, l'établissement dans le monde, c'est-à-dire de refuser toute partie et de vouer sa vie à Dieu. Lorsqu'elle en avait parlé à son père, le père avait froncé les sourcils, ça ne lui plaisait pas de voir s'éteindre ainsi dans la dévotion son glorieux petit Félix de fille. Mais le père ayant disparu et Blaise étant chef de famille, nous pourrions imaginer que le frère est très heureux de voir à quel point sa sœur a subi sa poussée. Et d'après tout, Blaise Pascal est fort hostile à la détermination de sa sœur, car il s'agit, hélas, d'une question d'argent. Quand une religieuse pauvre entre dans un couvent, bon, bien, la croit telle qu'elle, mais quand la fille du commissaire député entre dans un couvent, il faut qu'elle apporte une dot. Pierre Blaise Pascal, chef de famille, et qui a, comme on dit, les cordons de la bourse entre les mains, ne veut pas de bourser la dot pour sa sœur. Il y a un échange de correspondance très consistante entre eux, qui prouve qu'elle était sa sœur autrement encore que par le sang, mais par la même violence, le même emportement qui était les siens. Elle lui écrit « Ne me retenez pas si vous n'avez pas le courage de me suivre. » Elle lui dit « Ne montez pas ce qui n'est pas dans votre pouvoir de me donner. » Il va finir par céder au mois de juin 1753. Il va lui constituer une dot pour son ancien couvent. Mais quand sa sœur entre à Port-Royal, jamais lui-même, Blaise Pascal, n'a été plus loin de Port-Royal qu'à cette date même. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans cette période obscure et confuse de sa vie, que les biographes appellent volontiers sa période mondaine. Nous sommes très mal renseignés sur cette période mondaine. Et quand on ignore, la loyauté est de dire qu'on ignore, que nous ne savons presque rien. Nous pouvons supposer que Pascal est quelqu'un qui en a assez d'éblouir, qui veut plaire maintenant, qui en a assez de travailler dans le genre esprit de géométrie, qui veut travailler dans le genre esprit de finesse, qui a assez l'univers masculin qui est le sien et qui voudrait se mêler à l'univers féminin. Nous avons des informations qui viennent de Gilbert, qui nous disent que dans sa période mondaine, ce frère était très brillant, qu'il avait trois domestiques et un carrosse à six chevaux. Réfléchissons à ces mots qui glissent souvent devant nous sans que nous en voyions la force. Un célibataire, trois domestiques, c'est déjà pas mal. Mais c'est le carrosse à six chevaux qui devrait nous frapper davantage. Bien sûr que la plupart des Françaises, à 97%, n'avaient pas de carrosse du tout, puis il y avait un certain nombre qui avaient une voiture dite de série. Il y avait leur roi seul, qui avait droit à un carrosse à huit chevaux, et il y avait une pincée de Français d'élite qui avait un carrosse à six chevaux. Eh bien, Blaise Pascal en était. Représentez-nous bien ce Blaise Pascal des années 1752-53 comme quelqu'un de fondant, insolent, dressé, parfumé, qui est joueur, qui porte de très beaux habits, avec des rubans verts aux couleurs de feu, qui a une perruque à six rangs de boucles, et un garçon qui est étonnant dans la vie parisienne. Comment s'est-il comporté réellement? Ben, nous ne savons rien, justement. On a dit pendant un certain nombre d'années, et on ne le dit plus aujourd'hui, que Blaise Pascal aurait été l'amant de mademoiselle de Roanès. Il était lié avec le frère, le duc de Roanès. Nous avons une part de sa correspondance avec mademoiselle de Roanès, tout semble indiquer qu'il y avait entre eux une entente affectueuse, mais rien de plus. On a cru, dans l'année 1923, avoir trouvé un document concernant un enfant adultérin qu'aurait eu Pascal. Ce document ne s'appliquait pas à Blaise Pascal. Donc nous ignorons tout de son comportement dans cette période mondaine. Nous n'avons que deux informations qui sont bien peu de choses, qui ne sont que des mots, qui sont deux mots que je vais vous dire l'un après l'autre et qui ont leur poids. En 1655, quand sa période mondaine est déjà finie, sa sœur, dans une lettre, lui parlera du, entre guillemets, du bourbier dont vous vous êtes retiré. Et lui-même, dans un texte de 55, parlera de ses souillures. Alors vous voyez, nous avons deux expressions seulement, deux vocables, bourbier et souillure. Ils sont violents. Je sais bien qu'ils viennent de chrétiens austères et qui désignent des choses que nous autres, qui sommes du monde, considérerions sans doute comme plus vieilles. Il y a les enfants, il y a bourbier et il y a souillure. Ben, tenons-nous-en à ça, parce que c'est tout ce que nous possédons. Du moins, connaissons-nous les limites qui sont étroites de cette période mondaine de Blaise Pascal. Il y est entré vers le milieu de l'année 1651, ce qui est très frappant, c'est tout de suite au lendemain de la mort du père, au lendemain de ce beau texte, ce religieux qu'il avait écrit sur la mort du grosnier Pascal, et dès le printemps 1654, c'est déjà fini, ça ne l'intéresse plus. Voyez-vous, c'est une âme brûlante, enfin dévorante, quoi, une âme de feu qui détruit presque tout de suite ce qui a été l'objet de ses convoitises. D'abord, il avait désiré briller dans les sciences, cet effet, et dans la mesure où cet effet, ça n'intéressait plus. Il avait désiré briller dans la théologie, au point de se faire inquisiteur, il y avait réussi, ça n'intéressait plus. Il avait désiré briller dans le monde, cet effet, alors aussi, ça n'intéressait plus. Si bien qu'au début de l'année 1654, il est dans un état, c'est un mot qu'il emploie, dans un état de grand abandonnement. Rien ne n'est plus de rien, dit-il à sa sœur, et il voudrait retourner vers ce Port-Royal, où il n'allait plus depuis des années. Les gens de Port-Royal, vous savez, c'était des chrétiens austères et rigoureux, qui considéraient que l'homme est engagé dans un certain drame et qu'il doit penser à ses fins dernières. Et quand ils voyaient devant eux, encore en 1751 sans doute, ce Blaise Pascal, fondant, insolent, redressé, dont je vous ai parlé, au lieu de les éblouir, eux, je crois que Pascal leur faisait un peu pitié. Il avait senti ça. qu'il avait cessé d'avoir des rapports avec ce port royal où les valeurs du monde n'avaient pas cours, et pour lui, il est à fond engagé à ce moment-là dans ce que nous appellerons les valeurs du monde. Elle cesse d'avoir maintenant un prestige à ses yeux. Il voudrait retourner à Port-Royal, il voudrait revoir Jacqueline. Il n'y a plus Jacqueline. C'est Sœur Sainte-Euphémie. C'est une petite religieuse, elle était petite en effet, avec sa robe de bure blanche et une croix écarlate sur la poitrine. Elle va lui demander des conseils. Voyez-vous, les rôles sont complètement inversés. Il y a quelques années, c'est lui qui parlait, elle qui écoutait devant ce grand frère fascinateur. Et maintenant, il est métamorphosé. Il se tient devant elle comme un pauvre, comme un vaincu. Il lui demande ce qu'il peut bien faire. Alors elle l'interroge, elle lui demande, mais est-ce que Blaise, est-ce que vous avez perdu la foi? Il dit non, non, ce n'est pas que j'ai perdu la foi. Je continue à croire en Dieu, je continue à dire, enfin, du bout des lèvres, que Jésus-Christ est Dieu, mais tout ça ne me parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors lui dit-elle, mais si vous n'avez pas perdu la foi, ça ne serait pas une hypocrisie que d'essayer de faire une geste de la ferveur. Et par une espèce d'affect physique, cette ferveur perdue vous reviendra peut-être. Et bien, il va écouter sa sœur. Vous savez que nous aurons l'écho de ces conversations dans les pensées. Et il va dire, abêtissez-vous, utilisez la bête qui est dans le jeu, dans l'animal, la machine. Faites les gestes de la foi et de la ferveur. Faites des signes de croix, prenez de l'obélisque. C'est ça qu'il a écrit. Ben, c'est ça, elle le lui avait dit. Il lui avait dit, en imitant les gestes extérieurs de la ferveur, cette ferveur reviendra peut-être. Notez bien, attention, il y a un contresens que j'ai commis autrefois et que mon professeur de rhétorique commettait puisqu'il me disait « Rien n'est plus sinistre que cette méthode d'abêtissement de Pascal ». Le contresens est celui-ci. Des gens disent que Pascal, à la suite de sa sœur, nous propose, à travers ses pensées, une sorte de recette pour passer de l'incroyance à la croyance. Il ne s'agit rien de tel. Pas du tout une absurde recette. Comme une recette pour transformer un chauve en un chevelu, absolument pas. Il s'agit d'un remède, voyez-vous, d'un pauvre remède pour croyants dépossédés, qui, sur le plan de la ferveur surnaturelle, connaissent ce que Proust appellera, sur le plan de la ferveur temporelle, les intermittences du cœur. Donc, Blaise Pascal va écouter le conseil de sa sœur. Et tout ça va aboutir à cette extraordinaire aventure, à cette nuit mystérieuse, qui est la fille de la vie de Pascal, la nuit du 23 novembre. 1654. Là aussi, nous ne savons pas comment la journée avait commencé. Je viens de vous dire, quand on ignore, il faut dire qu'on ignore. Alors, nous ne savons pas de quoi avait été faite cette journée. Je peux simplement concevoir, comme une très grande probabilité, que Pascal s'appliquait à s'ordonner cette ferveur perdue de cette année à l'année. Et je sais qu'il connaissait le saint que l'on vénérait ce jour-là et que l'on vénérera le lendemain. C'était le jour de Saint Clément, pape et martyr, et la veille de Saint Chrysogone, martyr. La journée s'est passée, donc je ne sais comment, mais maintenant nous savons ce qui va se passer. Nous sommes dans la chambre de Blaise Pascal, qui est tout seul, et c'est environ 10h30 du soir. Il est là qu'il pratique ce qu'on appelle sans doute une récolution, une méditation. Je pense qu'il songe à ses disparus, dont il ne sait guère que les noms, Clément et Chrysogone. Mais il a vu dans son livre de messe que c'était des martyrs. Vous savez que martyr de mauvais qui veut dire les témoins. Et vous savez aussi que dans ses pensées, il dirait, quant à moi, je crois les témoins qui sont tués. Il y a ces gens dont il ne sait sans doute pas grand-chose. C'était des témoins qui s'étaient fait tuer. Alors j'imagine qu'il songe à ses disparus qui jurent ce qu'il est encore si loin d'être. Alors que pourtant il croit, il décroît à la même réalité que celle pour laquelle ces gens-là sont morts. Et c'est à ce moment-là que se produit l'événement mystérieux. Nous sommes assez renseignés là-dessus par ce que l'on appelle son mémorial. Dès que l'événement, entre guillemets, a fini de se produire, pour en garder perpétuellement le souvenir, Blaise Pascal va écrire sur un morceau de parchemin ce que l'on appellera son mémorial. Ce mémorial, il le gardera toujours sur lui, dans son pourpoint, dans la doublure de son pourpoint. Ce n'était pas son valet de chambre qui s'en occupait, c'était lui quand il changeait de pourpoint, qui décousait la doublure et qui transportait dans la doublure ce nouveau pourpoint ce petit morceau de papier plus de parchemin pour en sentir perpétuellement la présence et le crissement contre son cœur. Ben, nous le possédons, ce texte, et il est ainsi rédigé. L'an de grâce 754, lundi 23 novembre. Jour de Saint Clément, pape et martyr, veille de Saint Chrysogone, martyr, depuis environ 10h30 du soir, jusque-là, environ 1h30, qu'elle en grosse lettre, au milieu du texte, feu. Je sais, on a discuté sur le sens de ce mot, feu. Est-ce que Pascal aurait eu, je ne sais quelle illumination, est-ce qu'il a vu un feu dans sa chambre, la question est mal posé, ça, nous ne pouvons pas y répondre. Toujours est-il que ce feu, quel qu'il fût, il y a flambé, il n'a pas ici brûlé. L'image du feu, voyez-vous, elle est constante dans les textes saints. C'est l'image, et plus une image avec les buissons ardents, c'est le Christ disant, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et vous vous rappelez ce fameux texte de Luc, enfin, sur les pèlerins d'Emmaüs, ce texte que l'incroyant Renan disait à la fin de sa vie qu'il ne pouvait plus relire sans qu'un commencement de sanglots se forme dans sa gorge. Pardonnez-moi de citer ça en latin, comme un cuisse. Nonne cornostrum. Ardens erat in nobis cum loquentur in via. N'est-il pas vrai que notre cœur, ardens erat, était tout ardent, était tout en feu au-dedans de nous, pendant qu'il nous parlait ce chemin. Là, j'ai l'impression que Gaspard Carli, dans sa chambre, ce lundi 23 novembre, a eu le sentiment d'être en contact avec ce même quelqu'un qui avait parlé au pèlerin d'Emmaüs sur la route. Non pas une idée abstraite et ivre, comme c'est écrit dans le texte, non pas le dieu des philosophes et des savants, pas le dieu de Descartes, que l'on convoque un instant pour donner la chose initiale au mouvement du monde et qu'on renvoie ensuite à son lointain et à son lien. Pas le dieu du Pascal de la veille et de l'avant-veille, Pascal de beaucoup de paroles et de peu de foi. Pas un dieu idée, pas un dieu abstrait, mais un dieu concret, un dieu homme. Celui qui avait tué sa sueur de sang, qui était manique, qui avait traîné sa poutre dans les rues de Jérusalem, qui avait été cloué sur cet arbre épouvantable du Golgotha, qui est pour Pascal comme un point de tangente entre le ciel et la terre. Alors dans cette chambre de Pascal, il y a quelqu'un qui ne fait plus rhétorique maintenant. Quelqu'un qui est à genoux, et que la joie emporte, nous le savons par le même regard. Joie, joie, pleure de joie. Attention, on ne pense qu'à son pleur de joie. Regardez bien le texte, il y a autre chose encore. Il y a une accusation qu'il porte contre lui pour ces fautes que nous ne connaissons pas. Puisqu'il dit en parlant des Christ, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Mais il a fait tout le chemin à ma rencontre, il est venu vous trouver dans la misère et le monde d'Alessandre. Dernière parole du mémorial. Ah, que je n'en sois jamais plus, c'est vrai. À la suite de cette nuit mystérieuse du 23 novembre 1754, Pascal s'est imaginé qu'il allait vivre auprès de Port-Royal, si je puis dire dans l'aura de Port-Royal. Et voilà qu'on va lui offrir une bataille. Et ce tempérament qui est le sien de gladiateur et de dominateur va trouver matière à s'épanouir, et c'est maintenant qu'il faut que je vous expose le drame B provincial. Voyez-vous, ça avait commencé en 1649. En 1749, la faculté de théologie de Paris, c'est la Sorbonne, avait dénoncé à l'autorité extérieure, c'est-à-dire au pape, cinq propositions. Comment on disait les propositions? C'était des phrases par lesquelles la Sorbonne résumait la doctrine de l'Augustinus, c'est-à-dire le livre de base de Jean-Denis. Rome met du temps pour étudier la question, puisque je vous le disais en 1649, et c'est uniquement en 1653 que le pape va se prononcer et va condamner ces fameuses cinq propositions. Alors les hommes Port-Royal vont trouver une défense, qui du reste est à la fois habile et légitime. La fameuse distinction du fait et du droit, qui n'est pas compliquée. Ils disent, en droit, nous sommes d'accord avec le pape, c'est-à-dire nous condamnons nous aussi ces propositions. Mais en fait, nous ne sommes pas d'accord parce que ces fameuses propositions, entre guillemets, ne sont pas des phrases extraites directement de notre livre de base, le fameux Augustinus. Si le pape avait pu dire, voici cinq phrases de l'Augustinus qui sont condamnées, et avec des références nettes, par exemple, j'ai toujours la page 100, colonne top, ça, nous serions coincés. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de phrases par lesquelles la Sorbonne prétend résumer l'essentiel de notre doctrine. Alors, nous contestons l'exactitude de ce résumé. Donc, d'accord en droit, pas d'accord en fait. La discussion est violente, puisqu'il y a d'un côté Nicole et Arnaud qui soutiennent ces distinctions, et d'autre part un certain nombre de Jésus, et en particulier le confesseur du roi, qui s'appelait le père Anna, avec un T à la fin, Anna, qui conteste la validité de ces distinctions. Le 14 janvier 1656, la Sorbonne intervient à nouveau pour déclarer, entre guillemets, téméraire la distinction du fait et du droit. Les choses tournent très mal, cette distinction téméraire annonce une condamnation romaine. C'est alors que les gens de Port-Royal se retournent vers Blaise Pascal, qui est maintenant leur ami très cher, en fait, il vit près d'eux, et ils lui disent, vous êtes sans doute seul capable d'éviter cette condamnation, tâchez de porter devant l'opinion publique notre défense, et peut-être que nous éviterons ainsi la condamnation romaine. Et bien Pascal va se lancer dans cette bataille, et je voudrais que nous regardions ensemble sa méthode. Elle est très curieusement pré-voltairienne. Pourquoi non? Bien voyez-vous, au XVIIIe siècle, lorsque Voltaire soutiendra les gens de l'encyclopédie, il leur dira comme premier argument, vous ne savez pas où y prendre, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez d'extirper le christianisme de l'Occident, on n'y arrivera pas avec des bouquins aussi énormes et aussi intransportables que l'encyclopédie. Ce qu'il faut faire, leur dit-il, c'est ce qu'il appelait lui-même des petits pâtés et des rogatos, c'est-à-dire des tout petits textes, presque des feuilles volantes, qui pourront circuler sous le manteau et se répandre partout. Et bien, de même, Pascal dit à ces gens de Port-Royal, si vous voulez avoir l'opinion publique avec vous, il ne faut pas publier ces espèces de pavés indigestes que vous faites, il faut au contraire, ce que je vais faire moi, des petits textes rapides, très faciles, d'une lecture amusante, et qui pourra amener l'opinion publique de votre côté. C'est l'idée qu'il aura de lancer ces fameuses lettres à un provincial. Que signifie provincial? Non pas, vous le savez, un homme de la province, mais un directeur religieux de province, le provincial des Dominicains, le provincial des Jésuites. Deuxième méthode pré-voltairienne, celle qu'on appelle du pseudonymat ou de l'anonymat. Au début, et l'on l'ignore souvent, au début, les premières provinciales n'étaient pas signées. Et vous savez que Voltaire a beaucoup travaillé dans l'anonymat et le pseudonymat. Et bien Pascal avait montré le chemin, il avait commencé par ne pas signer ses provinciales, ses lettres provinciales, et se disant que l'opinion publique aime bien, surtout à la base d'un texte polémique, avoir une signature, il avait mis une signature qui était par la sienne, Louis de Montalt. Montalt, au lieu de mot latin, Montalta, Louis de la Haute Montagne. Et il avait inscrit le goût du pseudonymat qui va changer de nom personnellement, va venir c'est-à-dire à Paris, rue Clermont, et là, dans l'hôtel où il s'installe, il signera Monsieur de Mons, c'est la montagne qui a perdu son altitude, voyez-vous, une espèce d'humidité qui lui était venue. Alors il s'est installé curieusement en face de la maison mère des Jésuites, comme pour constater, si j'ose dire du plus près possible, l'effet de son bombardement sur la maison d'en face. Pour rester dans les abords militaires, disons qu'il imagine aussi ce que nous appellerons une rectification du tir. Il dit à ses amis de Port-Royal, voyons, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez éviter une condamnation romaine? Et parce qu'il n'y a pas un bon moyen de vous discuter avec le pape, parce que le pape n'aime pas ça, on conteste ses affirmations. Vous avez cette chance, leur dit-il, que devant le pape, c'est d'instituer une espèce de rideau de tirailleurs formé en particulier de jésuites, et bien on va rectifier le tir, nous ne tirerons que sur les jésuites en disant pardon, respect à celui à qui est derrière. Quatrièmement, le mouvement tournant. Au début, les provinciales traitent les sujets mêmes, qui sont des sujets difficiles, vous savez, surtout pour l'opinion publique, c'est des têtes d'épingle, la grâce, la prédestination, l'ampleur de la rédemption, tout ça, c'est très difficile. Et à partir de la cinquième provinciale, il va faire ce mouvement tournant qui consiste en ceci, essayer de discréditer l'adversaire. L'adversaire, c'est principalement les jésuites. Et on a apporté des munitions à Pascal, je sais qu'il lui a apporté peut-être 5 heures. Des munitions qui lui permettent de retirer toute audience à ses adversaires, car il les tient sur le chapitre de la morale. En effet, on lui a apporté des textes de Cassis. Qu'est-ce que ça veut dire Cassis? Cassis, c'est un spécialiste de cas de conscience. Si j'ose dire, c'est un compétent qui se croit plus malin que les autres, et qui écrit en latin des livres qui ne sont pas pour le public, qui sont pour les confesseurs, où il leur donne des conseils. Ben effectivement, il y a un certain nombre de casuistes, surtout espagnols et surtout Sanchez, qui se posaient à eux-mêmes les cas de conscience les plus compliqués et qui les résolvaient toujours dans le sens d'une indulgence extrême. Il y avait 2 méthodes qui sont devenues célèbres grâce à Pascal, la méthode de la restriction mentale et la méthode de la redirection d'intention. Restriction mentale, c'est très clair, on peut dire oui en pensant non, parce que Dieu qui entend tout entendra votre nom même s'il n'est pas articulé par vos lettres. Deuxièmement, la direction d'attention, comment vous dire ça, je n'oserais pas prendre des exemples, c'est Chanchet, ce sont tous des exemples inconvenants. Prenons l'exemple d'une pomme, par exemple. Là, quelqu'un veut voler une pomme. Alors, il s'agit de bien diriger l'attention. Si vous dites, je veux voler cette pomme qui ne m'appartient pas, je suis très heureux de porter préjudice à autrui. Ah, ça c'est défendu, ça c'est empêché. Mais si vous dites, ah, cette pomme me fait une terrible envie, je vais me rendre malade si je prends pas cette pomme, et j'ai le devoir envers moi-même. Alors je la prends discrètement. Mais ça, c'est pas tout à fait un péché. Direction de l'intention. Il les tient avec des arguments comme ceci. Il a l'impression qu'il va les écraser au point de vue de l'opinion publique. Et en effet, cinquièmement, ce qu'il veut, c'est convoquer les mondains. Il les a présentés, il les a traversés, il les a abandonnés. Il sait très bien que ces gens du monde sont non seulement indifférents, mais imperméables à des problèmes religieux. Et néanmoins, il décide de les avoir avec eux sans songer que les gens qu'ils dressent maintenant à crier, à parler jésuites, auront des petits-fils qui, au siècle prochain, seront Ah ben, j'ai vu que... Eh bien, regardons agir Pascal dans ses provinciales et j'ai trois remarques à vous apporter. Deux qui viennent de Voltaire, chapitre 37 du siècle Louis XIV. Voltaire dit, il y a deux choses graves, deux erreurs graves dans les provinciales. Premièrement, Pascal s'arrange pour que le lecteur, le lutteur, puisse indifféremment comprendre le mot casus comme le mot Jésus. Et c'est pas vrai, car il y a des casus et Jésus, mais il y a des casus aussi qui ne sont pas Jésus, qui appartiennent à d'autres ordres religieux. Et Pascal s'arrange pour que le lecteur ait l'impression qu'on peut indifféremment employer le mot casus ou le mot Jésus. Deuxième remarque de Voltaire, Pascal essaye de donner l'impression qu'il y a comme un mot d'ordre de la compagnie de Jésus pour altérer ou adultérer la doctrine chrétienne, alors qu'il s'agit, en fait, d'un groupe assez restreint de confesseurs spécialement espagnols. Et la troisième remarque, qui n'est plus Voltaire, une remarque que je voudrais vous soumettre personnellement. Je parlais de l'indulgence des confesseurs. Et là, il faut nous mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui croit à la réalité, à la valeur de la confession. Et lorsque quelqu'un fait une confession avec ce fameux ferme propos, c'est-à-dire une bonne volonté entière de ne plus recommencer, il est important que le confesseur n'essaie pas de l'accabler en lui disant « ta faute, vous l'avez fait ». Mais au contraire, de prendre appui sur sa faute même pour y trouver je ne sais quelle permanence de lumière. Prenez par exemple Victor Hugo. Victor Hugo dans Les Misérables, quand il nous présente l'évêque Myriel, sur lequel il avait des renseignements précis, en réalité il s'appelait l'évêque de Lyon, c'est le monseigneur de Lyon, c'est l'évêque de Digne. Hugo dit, et c'est dans les papiers réels de Lyon, que lorsque ce prêtre, cet évêque, confessait, il cherchait toujours à savoir le chemin par lequel la faute avait passé. C'est-à-dire que tout évêque confus, il se disait si moi-même j'avais été soumis à la même tentation, mais comment est-ce que je m'en sortirais? Voyez-vous, c'est là où on peut comparer le génie latin, le génie grec, par exemple, le latin, pour pardonner, c'est un mot qui est ignosco, qui ressemble à ignoro. Je pardonne parce que j'ignore cette faute, je m'en détourne, elle est comme si elle n'existait pas. Tandis que les Grecs disaient sun ignoskei, c'est-à-dire penser avec, se mettre dans l'état d'esprit de celui qui, c'était la technique de Monseigneur Myriel. Seulement, voyez-vous, il y a une énorme différence entre cette indulgence essentielle, cette espèce de fraternité avec le pécheur, une différence essentielle entre ça et la méthode, effectivement, la méthode d'un certain nombre de confesseurs de la cour, si je puis dire qu'ils mettaient cette image, qu'ils mettaient une banderole sur leur confessionnal, enfin, arrangement en sous-genre, absolution garantie, et ça indignait un homme comme Bossuet qui ira jusqu'à parler, lui, l'académique Bossuet, des ordures des casuistes. Moi, c'est cette différence fondamentale entre Bossuet et Pascal, que Bossuet est un homme qui voit là une plaie à guérir, tandis que Pascal, il voit une arme à brandir. Comprenez bien qu'avec Pascal, nous sommes en présence de quelqu'un qui, si j'ose dire, canonise ses haines. Lorsqu'il déteste quelqu'un, il a l'impression tout de suite que c'est une haine sainte. Il y est poussé du reste par un fait qui s'est déroulé devant nos yeux, et que sa sœur nous a rapporté ce que l'on appelle, entre guillemets, le miracle de la Sainte-Épine. Il avait une nièce. Elle était donc la fille Marguerite de sa sœur Gilberte. Marguerite était une fistule lacrymale, un épouvantable bobo à l'œil, on avait recours à tout, aux médecins officiels et aux rebouteux, on ne la guérissait pas. Et comme dans cette famille Pascal, on est extrêmement religieux, on va essayer d'en recours au miracle. Il y avait à Port-Royal un petit morceau de bois infime dont on disait qu'il était un fragment de la couronne d'épines du tronc. Ça n'est pas le lieu de rechercher le chemin casu est suivi de ces morceaux de bois pour venir du Golgotha sur Port-Royal. Toujours est-il qu'on n'attachait à ce relique une grande importance. Alors Gilbert nous dit, on a essayé l'application de cette relique sur l'œil de ma fille, et miraculeusement, l'enfant a été guéri dans la journée même. Bonsoir. Alors mettons-nous dans une psychologie de miracle. Ben, nous pourrions dire que Pascal estime que Dieu a fait un miracle pour guérir cet enfant et d'impliquer ses enfants. N'oubliez pas du tout, c'est absolument pas ça que Pascal pense. L'interprétation que Pascal donne immédiatement à ce fait, entre guillemets, miraculeux dont il croit avoir été le témoin, c'est que c'est Dieu qui vient de se prononcer lui-même, qui lui a fait, je veux dire, un signe dans l'œil de sa nièce pour le persuader qu'il a eu bien raison de pulvériser c'est Jésus. Pascal a un emportement nerveux étrange, extrême à ce moment-là. Comprenez bien sa position. Pascal est un chrétien janséniste. Son Dieu est un Dieu qui n'a presque sauvé personne. Un rédempteur qui n'a presque racheté personne. Il y a, dans la 11e provinciale, une phrase que je crois savoir, que j'ai voulu. Dieu fait a charité, hein, du bagage. Dieu fait et méprise les pécheurs. À ce point même qu'à l'heure de leur mort, la vengeance divine joindra la moquerie et la risée à la vengeance qui les condamnera. Moquerie et risée, il ne suffit pas que ce soit un Dieu vengeur, il faut encore plus que Dieu se moque de cette créature dans sa vie. Alors je comprends qu'un homme comme Brunswick, dont tout le monde a étudié les hommes, on a fait là-dessus, j'ai travaillé Pascal quand j'étais en classe, Brunswick nous se représente, imagine Pascal comme un homme au sommet d'un Sinaï entouré d'orages, un homme qui vivrait dans la terreur de l'enfer. Attention, il se trompe, c'est vraiment qui a raison. Pascal est quelqu'un qui est personnellement convaincu que si petit que soit le nombre des élus, il en est. Il en est parce qu'il a eu sa communication du 23 novembre 54, parce qu'il a eu ce miracle de la fin des vies. Il y a une joie chez Pascal, une joie que Brémond définit admirablement en l'appelant une joie discrète, gênée et tragique, semblable à celle que pourrait éprouver quelqu'un qui a échappé à peu près seul à un immense naufrage où tout le reste de sa famille a péri. Je vous parlais de l'état de ses nerfs en 58, à la fin provinciale. Rien ne le décrit mieux que son comportement sur un plan scientifique, car il continuait à faire des recherches scientifiques. Il y avait à ce moment-là un problème, dont je ne sais rien, qu'on appelait le problème de la cycloïde, et Pascal avait l'impression qu'il avait résolu ce problème. Ben, au lieu de faire ce qui était normal, c'est-à-dire de faire une de ses petites publications, comme celle qu'il avait faite à 16 ans, sans traiter pour les connus, il organise, si je puis dire, un match entre lui et tous les savants de la Terre, en disant, ce problème de la cycloïde, que personne n'a su résoudre, moi, je l'ai résolu. Alors je vous donne 6 mois, dans 6 mois, personne n'aura trouvé, j'apporterai ma solution. Et comme il se trouve qu'un jésuite, qui probablement ne connaissait pas bien son Pascal, s'était permis de faire des objections à la manière dont Pascal posait le problème de la cycloïde, ce jésuite s'appelait le père Lallouer. Pascal fait sur lui un bond de carnivore et il n'en reste rien. Nous avions donc cru que Pascal était arrivé à sa nuit, que non, non, il était seulement en chemin. Nous sommes en 58, il va mourir en 62, et c'est pendant ces dernières années, ces 4 ans, que Pascal va devenir Blaise Pascal, un homme dépensé. Quel est le chemin de son accomplissement? Oh, vous savez, c'est un chemin très simple et très banal. La souffrance, double souffrance. Souffrance physique, souffrance morale. Physique. Il avait toujours été en mauvaise santé, mais à partir de la fin de 58, ça va de plus en plus mal. 3 zones de souffrance dans son corps. Ses jambes qui se font tordues, rhumatismes articulaires. Il ne marche plus que sur des béquilles dès le début de 59. Souffrance dans le ventre, probablement une entérite tuberculeuse. Et souffrance dans la tête, ce qui est abominable que nous pouvons deviner grâce au certificat d'autopsie que j'ai vu. Les médecins ont repéré dans la matière cérébrale de Pascal comme l'empreinte d'un pouce ou comme un godet rempli de sang. Souffrance morale, disparition de sa sœur, Jacqueline. Elle va mourir en octobre 1661. Et comme si cette petite mort le poussait par les épaules, Pascal va rentrer dans une intransigeance extraordinaire à l'égard des exigences romaines. Le pape n'a pas voulu la fameuse distinction du fait du droit. Il a exigé de pourvoyer une réponse par oui ou par non. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous ne condamnez pas les 5 propositions? Alors le soviet de Port-Royal s'est réuni et pour sauver les meubles, on a décidé quelque chose qui va indigner. En effet, c'est Nicole ou Arnaud qui vont dire, d'accord, nous allons condamner les propositions. Parce que, écoutez bien, parce que le sens où nous les entendons n'est pas le même que le sens où les entend le pape. Ce qui veut dire réflexion mentale. Alors Pascal se met dans un état fou, il leur dit ce que vous proposez là est non seulement méprisable devant les hommes, mais abominable devant Dieu, et il s'évanouit pendant la discussion. Ce même homme que vous voyez si violent dans sa résistance au pape va quelques semaines plus tard faire venir auprès de lui le curé de sa paroisse, curé Saint-Denis du Mont, l'abbé Verrier. Et il va lui dicter une certaine déclaration que nul ne met en doute où Pascal dit, quant à moi, je me retire dorénavant de cette grande question préjudiciable à la paix de l'Église et m'en remets au sentiment humain. Qu'est-ce qu'ils ont passé? À mon sens, il s'est passé ceci, qu'un dernier voile s'est déchiré. Pascal avait écrit au lendemain de son grand mouvement intérieur de novembre 54, et vraisemblablement en décembre 54 ou en janvier 55, le plus beau texte qui soit parti de sa main, qui s'appelle le mystère de Jésus. Et dans ce texte, il y avait cette phrase qui m'aime toujours quand je la dis, étant donné qu'elle est tellement peu datée, et que c'est une phrase permanente. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Donc Pascal a écrit ça en 54 ou 55. Qu'est-ce que ça peut signifier pour lui? Jésus sera en agonie Mais pour un chrétien comme Pascal, la présence de Jésus parmi nous, c'est ses membres souffrants. Ses membres souffrants sont les malheureux, les misérables, les pécheurs, les exploités, les opprimés. Et Pascal, justement, est un homme qui a vécu dans sa tête, quelqu'un pour qui les autres n'existaient pas. Et tout à coup, là, très proche de sa mort, 6 mois avant sa mort, il va faire cette découverte que le prochain existe, quoi, que les autres sont. Alors on nous rapporte qu'il va prendre chez lui, une famille d'indigents qui est dans sa rue. Oh, je suppose qu'il leur avait donné par un geste automatique du chrétien que l'on appelle une aumône. Ça fait, mais il ne les voyait même pas. Tout à coup, il les voit. Il y a le père, la mère et un gosse. Ce sont des indigents, et pas seulement les pauvres, des indigents qui sont peut-être mauvais. Il les installe dans sa propre maison. Et il ne veut pas que ce soit un geste actif, il décide que s'il meurt promptement, comme il le redoute, il y aura un capital, une fortune pour eux. Et puis comme l'enfant, c'est malheureux, tombe malade, et que les médecins disent que le transport de l'enfant est dangereux, parce qu'elle dit qu'à Saint-Étienne, c'est moi qui m'en vais. Alors dans sa belle maison, il va laisser cette famille d'indigents avec le petit. Et lui, personnellement, avec ses bêtises, il va aller s'installer dans 2 chambres des fossés Saint-Victor. Dans ces 2 chambres, il se trouve encore trop au large. Son beau-frère Perrier vient le voir, sa sœur aussi, et il leur demande d'être transportés à l'hospice des incurables. L'hospice des incurables, c'est là où étaient les malades condamnés, de Paris, et les indigents, hein, les gosses, ceux qui n'avaient personne. Il désire être là-bas pour y mourir, peut-être à la ressemblance encore davantage d'un autre abandonné. Et puis Beurrier nous a donné une relation sur les 6 dernières semaines de l'équipe Pascal, relation que personne non plus ne met en doute, et où il y a un mot sur lequel je tiens à appeler votre attention. Beurrier dit, j'ai suivi M. Pascal dans ces dernières semaines, il est resté le même jusqu'à la fin, une parfaite lucidité, continuant encore, même couché, à essayer d'écrire d'une écriture un petit peu crispée et réduite. Il était devant moi, écrit Beurrier, doux et simple, comme un enfant. Et à quelques centimètres plus bas dans sa déposition, il y a encore ceci, c'était un véritable enfant. Alors vous voyez, il y a eu le chemin qu'il avait parcouru, c'est pourquoi je vous disais en commençant que Pascal n'avait jamais été un enfant. Et voilà qu'au seuil de la mort, il découvre ce que l'on appelle l'esprit d'enfance. Il voudrait se rendre semblable à l'un de ces petits dont il est dit assez mystérieusement dans le texte de Matthieu, leur ange voit continuellement la face du Père. Il demandait à l'abbé Beurrier de le faire communier en viatique. À ce moment-là, ça se faisait tout. Enfin, dans la nuit du 17 août 1762, vers minuit, il entend le pas de l'abbé Beurrier qui monte à l'escalier, qui dit pour que Beurrier vienne me voir cette nuit, qui pense que je vais mourir, et qui lui apporte cette garantie. Alors, voyez-le qui s'est soulevé sur un coude. Il y avait déjà plusieurs semaines qu'il n'arrivait plus à bouger, mais il est dans un tel état qu'il arrive à se mettre sur ce coude. Il regarde cette porte par laquelle l'abbé va entrer. Le prêtre entre, tenant le ciboire, et lui dit, voici celui que vous avez tant désiré. Et Pascal se met à fondre en larmes. Il y aura 26 heures de convulsion atroce. Et le 19 août 1762, à 1 heure justement du matin, il entre dans ce que lui-même appelait la lumière de la mort. J'ai fini et pourtant, il faut que je vous dise un mot, des pensées. Lorsque Pascal meurt, Nicole va dire de lui, Nicole qui n'avait pas de don de prophétie, M. Pascal sera peu connu dans la postérité. Songez qu'en effet, il faudra que la famille de Pascal, c'est-à-dire les perdiers, insiste auprès des gens de Port-Royal pour les décider à faire une publication. Ils disent, mais ça va avoir l'importance, ce sont des fragments épars. Ils vont payer, les perdiers vont payer. Et n'obtiendront que 8 ans, notez bien ça, que 8 ans plus tard, il est mort en 62, c'est seulement en 70 que va paraître une édition faite n'importe comment, avec des tas de fautes de lecture, une édition des pensées de M. Pascal sur la religion. Bien, c'est ce livre dédaigné, méprisé, considéré même avec négligence par ceux qui le publient, c'est ce livre qui va devenir ce que nous appelons aujourd'hui les pensées de Pascal, qui est une des lumières tout de même de notre Occident. Quand j'étais professeur, j'ai toujours éprouvé une certaine gêne. Avoir dans des programmes universitaires, sur le même plan, je sais pas moi, les lettres de Mme Sévigné, Rivla, c'est des pensées de Pascal, comme si c'était la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. Mme de Sévigné ou Victor Hugo cherchent des applaudissements. Lui, pas du tout. Lui, à travers ses pensées, on le sent pour ainsi dire qui respire. C'est un homme qui nous regarde dans les yeux, qui nous prend par le revers du veston, qui a des choses à nous dire, qui nous concerne capitalement, quelqu'un qui veut nous rendre sensibles le drame dans lequel nous sommes, vous connaissez la fameuse phrase des pensées, nous sommes embarqués. Il faut parier. Nous sommes embarqués, ça veut dire qu'on est tous sur le même bateau, quoi, dont le cap est mis sur la mort. Et qu'au-delà de ce bateau, au port, quelqu'un, selon lui, nous attend, qui est un juge et aussi un père, mais enfin, ça vaut la peine d'y penser. Si on veut tellement à Montaigne, c'est parce que Montaigne est l'homme qui dit, que sais-je, après tout, puisque nous ne pouvons pas savoir, n'y pensons plus. Au contraire, Pascal, tout son effort à lui, c'est de replacer l'homme comme en surfond, en face de son drame essentiel. Il y a un mot qu'on a beaucoup vulgarisé aujourd'hui, le mot humanisme. On en a fait un tel usage qui ne veut plus rien dire, ou presque plus. Je vous dirais que pour moi, Pascal me paraît comme l'humaniste intégral, en ce sens que son regard embrasse l'homme tout entier, il traverse et il le mesure. Pascal rappelle à l'homme cette faiblesse que ne voulait pas voir Épictète. Mais il lui restitue cette grandeur que n'apercevait pas Montaigne. Pascal, pourrait-on dire, rétablit la créature dans sa dignité. Cette créature blessée, bien sûr, mais libre et capable de Dieu pourvu qu'elle sache aimer.